Il est 8h. Et à la une, cette information Europe 1, l'ENA sera finalement supprimée. Emmanuel Macron va l'annoncer aujourd'hui après 2 ans d'hésitation sur le sort de cette école dont il est issu. Profil plus varié, adaptation à la réalité du terrain, la carrière des hauts fonctionnaires va aussi être réformée. Le débat sur l'euthanasie révèle les lacunes en matière de soins palliatifs. 1 hôpital sur 4 n'a pas d'unité de ce type. Et puis l'examen des consciences douloureux d'Alain Juppé. 27 ans après le génocide de Rwanda, lui qui était ministre des Affaires étrangères de la France reconnaît des erreurs, voire des fautes, au nom de la vérité. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invitée, Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts. C'est un euphémisme de dire qu'elle est habituée des polémiques, dont la dernière en date concerne une comparaison historique entre musulmans et juifs. Elle vient s'en expliquer. Rendez-vous 8h15.
C'est juste après ce journal. Il est 8h01 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Ça n'est pas une réunion d'anciens élèves de l'ENA et pourtant, des préfets et des ambassadeurs, des conseillers d'État et de la Cour des comptes, des directeurs d'administration centrale, tous en visio cet après-midi face au président de la République. Lui et une bonne partie d'entre eux étant issus de l'ENA, École Nationale d'Administration, dont il va annoncer la suppression, et c'est une information Europe 1.
Que vous nous livrez, Louis Dragnel, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Chef adjoint du service politique d'Europe 1. Alors cette suppression de l'ENA, Emmanuel Macron l'avait promise après la crise des Gilets jaunes, puis il avait renoncé. Voilà qu'il rechange d'avis.
Oui absolument, donc l'ENA va être remplacée par une nouvelle école de la haute fonction publique. Emmanuel Macron souhaite ouvrir à de nouveaux candidats les grands corps d'État qui administrent aujourd'hui le pays, comme l'inspection des finances, le Conseil d'État ou la Cour des comptes. Le chef de l'État veut attirer des profils plus variés venant des universités et plus uniquement de Sciences Po. Pour la formation, il doit aussi annoncer un tronc commun à tous les hauts fonctionnaires pour les confronter aux nouvelles réalités du terrain. Laïcité, pauvreté, écologie, discours scientifique. Enfin, c'est un sujet très sensible. Emmanuel Macron va s'attaquer à la réforme des carrières en encourageant les mutations, en cassant les logiques de corps et de rente à vie. Et si cette réforme était adoptée avant la fin du quinquennat, eh bien, les hauts fonctionnaires seraient à l'avenir évalués de manière systématique et affectés à une mission en fonction de leur profil et des besoins de l'État et plus sur le seul critère de leur classement à la sortie de l'école. Et si ça ne convient pas, eh bien, on pourra leur proposer une rupture conventionnelle de leur contrat.
Une rupture conventionnelle de leur contrat. On entend, Louis, que c'est aussi toute la carrière des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui est concernée. Donc, on n'est pas là simplement sur un toilettage de la haute fonction publique.
Loin de là, Emmanuel Macron veut montrer aussi aux Français qu'il tire les premiers enseignements de la crise sanitaire et des dysfonctionnements qui ont été pointés du doigt. Il veut s'attaquer au mammouth d'une administration qu'il juge pas assez efficace, pas assez loyale, trop lente, trop puissante, trop endogène et surtout une administration qui, selon lui, prend trop peu de risques. Mais en réformant aujourd'hui l'ordonnance de 1945, conçue par le général de Gaulle qui souhaitait à l'époque constituer une nouvelle haute fonction publique pour relever le pays, eh bien Emmanuel Macron provoque une petite révolution. La situation n'a certes rien à voir avec l'après-guerre, mais le président veut créer le même électrochoc. Même si dans son entourage, on assure qu'il ne faut pas y voir un acte de défiance à l'égard des hauts fonctionnaires, eh bien cette réforme devrait quand même avoir lieu.
Est-ce une annonce qui peut vraiment être concrétisée ?
Écoutez, pour que cette réforme ait une chance d'être adoptée avant 2022, il faut qu'elle soit débattue au Parlement avant ce mois de juin. Et compte tenu de l'embouteillage législatif, une certitude, la fenêtre de tir est très étroite.
Les informations de Louis Dragnel. Les Européens, eux, n'ont pas trouvé leur fenêtre de tir pour parler d'une seule voix au sujet du vaccin AstraZeneca, comme l'implorait la commissaire européenne à la santé. Après le lien établi entre de rares caillots sanguins et ce vaccin, Espagne, Italie, Allemagne, Pays-Bas le réservent aux plus de 60 ans, tandis que France et Belgique l'autorisent dès 55 ans.
Une niche parlementaire pour examiner 2 propositions de loi aujourd'hui, la promotion des langues régionales et le droit à l'euthanasie. Nicolas Bétou nous rappelait le calendrier impossible pour un débat serein sur cette question.
Oui, et quand revient le sujet de l'euthanasie, des opposants en appellent aux soins palliatifs, mieux prendre en charge la douleur. Sauf qu'aujourd'hui, 1 hôpital sur 4 en France ne dispose pas de telle structure. Pierre Herbulot.
Rien dans l'Allier, le Jura ou encore l'Eure-et-Loire, un gigantesque désert médical de 26 départements. Pourtant, ces unités de soins palliatifs sont essentielles dans l'accompagnement des malades en fin de vie, explique le docteur Anne-Claire Courreau de l'hôpital de Bourges.
Au-delà de la souffrance physique, c'est aussi une unité de soins palliatifs à proposer une prise en charge même psychique, spirituelle, si j'ose dire, avec, je pense à une unité de soins palliatifs où je travaillais, où il y avait une violoncelliste qui pouvait venir, une socio-esthéticienne. Et globalement, ce qu'on ressent aussi, c'est que les patients devant la mort ont un sentiment de solitude et que c'est ce soin relationnel presque dans un cocon dont ils ont besoin.
À Bourges, il n'y a pas de service de soins palliatifs, ni d'ailleurs dans le reste du département du Cher. L'unité la plus proche est à 1h30 de route. Une inégalité des soins inacceptable pour Annie Delville. Elle est à la tête d'une association d'accompagnement des malades.
La médecine, elle est à plusieurs vitesses quand on parle de soins palliatifs, quoi. Mais bon, c'est une histoire de formation de médecin, c'est une histoire d'argent, inévitablement.
Justement, le gouvernement promet un budget renforcé, plus de formation et un accès simplifié au midazolam, un sédatif, dans son nouveau plan de développement des soins palliatifs.
Pierre Herbulot pour Europe 1. Perquisition hier à Paris au domicile du cuisinier Christophe Leroy. Il est soupçonné d'avoir organisé des repas clandestins malgré les restrictions sanitaires. Le chef avait démenti en parlant d'un énorme poisson d'avril qui avait marché. Et puis on vous a raconté aussi cette messe de Pâques dans une église parisienne, Saint-Eugène, où ni masque ni distanciation sociale n'étaient très apparents. L'archevêque de Paris ouvre une procédure canonique contre le curé.
Elle avait été fermée juste après l'assassinat de Samuel Paty. La mosquée de Pantin, en Seine-Saint-Denis, va rouvrir demain.
Oui, son recteur de l'époque avait partagé la vidéo d'un père de famille très virulent contre le professeur d'histoire géo. Le ministère de l'Intérieur donne son feu vert à une réouverture de la mosquée, satisfait des changements. Un nouveau recteur est arrivé que Théoman va la rencontrer pour Europe 1.
Tout est changé maintenant.
Son prédécesseur refusait de passer la main, mais il a fini par céder. Demain, c'est bien Abdourahmane Dramé qui prendra les rênes d'une mosquée de Pantin refaçonnée. Le désormais nouveau recteur a donné des gages à la préfecture.
On a discuté longuement. Nous, on fait nos pratiques en respectant la loi républicaine, c'est normal. On vit sous la République, donc il faut qu'on respecte.
L'idée de caméra à l'intérieur du lieu de culte avait été évoquée, ce ne sera finalement pas le cas, mais un nouvel imam est arrivé.
C'est un jeune instruit et étudiant à la fac, c'est un imam qu'on connaît.
De quoi retrouver un peu de sérénité, espèrent les fidèles.
Oui, tout à fait.
Comme ce quinquagénaire heureux de pouvoir revenir prier.
Moi, je suis pour les imams de France, ceux qui sont formés à la laïcité.
Et justement, cette réouverture anticipée à 5 jours du ramadan, c'est peut-être aussi, dit cet autre, un signe de considération de la part des autorités.
C'est un bon geste, oui. Parce que quelqu'un qui a fait une bêtise, c'est lui qui paye. Pourquoi tu fais payer tout le monde?
Les fidèles les plus impatients viendront dès aujourd'hui remettre leur mosquée qui est en état, comme pour acter ce grand ménage au sens propre.
Reportage de Théo Manval. Joe Biden contre les armes fantômes. En réaction à plusieurs fusillades meurtrières, le président américain devrait annoncer aujourd'hui des décrets pour encadrer la vente de certains types d'armes à feu, notamment celles fabriquées de manière artisanale, sans numéro de série. Restons aux États-Unis avec un débat qui monte assez tendu sur le passeport vaccinal. Pour le moment, seul New York s'y est mise.
La plus grande ville des États-Unis où l'on rejoint notre correspondant Alexis Guilleux. Bonjour.
Bonjour.
Alors ce passeport vient d'être lancé et il permet d'assister à des événements culturels ou sportifs.
Oui, comme par exemple le match de l'équipe de basket de Brooklyn hier soir. Cyril, téléphone en main, vient de franchir les barrières de sécurité.
And it's pretty straightforward and simple.
C'est assez simple à utiliser et si ça me permet d'entrer quelque part, alors ça me va. Hier, j'ai téléchargé l'application, j'ai entré mes détails, on m'a demandé ma date de naissance, mais pas mon numéro de sécurité sociale. L'Excelsior Pass, c'est le nom de ce passeport new-yorkais et c'est en fait un QR code qui résume votre statut vaccinal. Il n'est pas obligatoire pour le gouverneur de New York, c'est un outil supplémentaire pour lutter contre le virus et rouvrir l'économie en toute sécurité. David utilise le pass pour la première fois. Je suis absolument pour ce passeport. Vive le passeport vaccinal, comme ça je peux faire ce que je veux. Et concernant les risques pour ces données privées, on n'a plus de vie privée, on l'a perdue il y a 10 ans. Alors pour le moment, l'Excelsior Pass n'est pas encore très répandu et sur ce sujet, New York fait même figure d'exception aux États-Unis. Les gouverneurs de Floride et du Texas ont déjà fait savoir qu'ils n'en voulaient pas. La Maison-Blanche a, elle, indiqué cette semaine ne pas souhaiter de certificat de vaccination au niveau fédéral.
Merci Alexis Guilleux en ligne de New York pour Europe 1.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Il parle de lâcheté internationale. Alain Juppé qui reconnaît les insuffisances de la diplomatie française face au génocide au Rwanda. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h10, la suite du journal, François Geffrier.
C'était il y a 27 ans, le début du génocide des Tutsis au Rwanda, un terrible anniversaire marqué par ce long texte d'Alain Juppé, très personnel et en forme de mea culpa, une tribune parue dans le journal Le Monde, lui qui était à l'époque ministre français des Affaires étrangères.
Bonjour Didier François.
Bonjour.
Alain Juppé reconnaît que les autorités françaises n'avaient pas pris
toute la mesure de ce crime contre l'humanité.
Oui, et c'est d'ailleurs le travail de recherche extrêmement minutieux remis au président de la République le mois dernier par 14 historiens qui a permis cette prise de conscience, car c'est à la lecture de ce rapport qu'Alain Juppé a réalisé combien nous n'avons pas assez accompli au Rwanda. C'est en tout cas ce qu'il écrit, le drame étant, précise-t-il, que nous n'avons pas compris qu'un génocide ne pouvait pas supporter les demi-mesures. Ce sont ces mots, et le jugement est dur. Hein. Pendant près de 30 ans, j'ai porté cette blessure de n'avoir pas réussi à empêcher cette terreur, confie l'ancien ministre, qui a l'élégance de rappeler qu'en revanche, sur le terrain, nos soldats ont compris bien plus vite que beaucoup de politiques qu'il y avait d'un côté les tueurs, les Hutus extrémistes, et de l'autre, les survivants, ces derniers Tutsis qu'il fallait protéger coûte que coûte. C'est d'ailleurs ce que confirme au micro d'Europe 1, le général Jean-Claude Lafourcade, commandant l'opération turquoise déclenchée 3 mois après le début des massacres, pour enfin tenter de sauver les ultimes rescapés.
Le génocide, on a été les premiers, la France, à le dénoncer. Et nous, les militaires, quand on arrive, il faut faire au plus pressé, hein, pour sauver ceux qui peuvent l'être, arrêter les massacres, j'étais un peu en cours. Il n'y avait pas d'ambiguïté, on sauvait les Tutsis. Donc les massacreurs étaient des Hutus quand on est arrivé au Rwanda.
Alors pourtant, Didier, ce génocide a été mené de manière tout à fait publique et la communauté internationale n'a pas réagi.
Absolument, c'est également ce que rappelle Alain Juppé, hein, cette cécité politique face au génocide n'est pas le seul fait de la France. Il qualifie d'ailleurs de lâcheté internationale l'abandon de la capitale Kigali par les forces de l'ONU sur décision du Conseil de sécurité, et cela dès le début des massacres en avril 1994. C'est ce départ précipité des casques bleus qui laisse libre cours à la folie meurtrière des miliciens Hutus. Écoutez ce témoignage absolument poignant de cette survivante Jeanne, qui à l'époque n'avait que 17 ans.
Quand ils sont partis en évacuant tous les Occidentaux qu'ils avaient été chercher dans les quartiers de Kigali. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas, qu'ils ont sous-estimé. Il y avait des corps dans Kigali. Il y avait les corps des nôtres. Derrière ces corps, c'était nos parents, nos voisins, nos amis. J'ai perdu mes parents, mes deux sœurs. On était une fratrie de 5, ma nièce, mes cousins, mes tantes. Et du jour au lendemain, on se rend compte que c'est ça le génocide, c'est que s'il y a un vide, il y a qu'un silence qui reste et un vide abyssal autour de soi.
Il faut bien réaliser l'ampleur de ce crime. Près d'un million de victimes Tutsis, mais également des Hutus démocrates qui tentaient de protéger leurs voisins. Et cela, en à peine 3 mois, un nettoyage ethnique souvent exécuté à la sagaie, à la machette, des moyens certes primitifs, mais l'intention génocidaire ne faisait aucun doute. Ce massacre de masse avait été soigneusement planifié par les franges les plus radicales d'un gouvernement rwandais, malheureusement soutenu par la France. Sur ce point, les 14 historiens de la commission d'enquête nommée par le président Macron sont unanimes. Ils ont eu accès aux comptes rendus les plus confidentiels des armées, des affaires étrangères et même des renseignements qui décrivent ces listes de Tutsis à éliminer qu'avaient dressées les bourgmestres dans le moindre village et jusque dans les régions les plus reculées. Les signaux étaient donc d'un rouge écarlate. L'Élysée était parfaitement informé et c'est François Mitterrand qui a fait sciemment le choix politique de ne pas tenir compte des mises en garde de ses services.
Didier François, spécialiste des questions internationales et stratégiques à Europe 1. Merci Didier, ce dossier réalisé avec le concours de Nicolas Feldman.
L'actualité sportive, le tournoi de tennis de Roland-Garros aura lieu du 30 mai au 13 juin, une semaine plus tard que prévu, pour tenter d'accueillir plus de spectateurs, et ce sera à vivre sur Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Et puis en football, le PSG a eu de la réussite, de l'aveu même de son entraîneur Mauricio Pochettino. Victoire 3-2 sur le terrain du Bayern en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Mbappé, Neymar et le gardien parisien Navas ont fait un très grand match.
Merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h14 et dans un instant, Sonia Mabrouk et son invité, la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Esther Benbassa. À tout de suite.